Accueillir Amélie Bertrand qui va présenter la dernière communication donc de ce colloque. Amélie est née en 1985 dans le sud de la France. Elle vit et travaille à Paris. Diplômée de l'École supérieure des beaux-arts de Marseille, elle est représentée par la galerie Semioz à Paris. Je crois qu'elle a actuellement sa troisième exposition personnelle. Son travail a été exposé en France et en Allemagne, fait partie des collections du Fonds national d'art contemporain et du Fonds régional d'art contemporain du Limousin. Je suis vraiment très heureuse, très honorée de lui laisser la parole pour la dernière conférence de ce colloque. Chère Amélie.
Beaucoup, j'arrive tout de suite. Génial. Ben, merci beaucoup. Bonsoir. Bon, c'est un peu dur de passer après, ne partez pas. Je vais tenter de vous présenter l'ensemble de mon travail, de manière à y déceler toutes les étapes de la construction d'un tableau. Alors, le titre de mon intervention est « Fusionner les calques invisibles de la peinture à l'huile ». Fusionner les calques est un terme Photoshop utilisé dans les onglets pour travailler afin de créer une seule image. Pour mémoire, Photoshop est un logiciel de retouche d'image qui a vu le jour en 90. Une image Photoshop se constitue de calques. Dès qu'une forme est créée ou importée, elle crée un calque. Le calque peut ainsi être dupliqué, transformé, supprimé à l'infini. Toutes les étapes de l'image sont mémorisées. Alors, je vais vous faire une petite présentation chronologique de mon travail. J'ai terminé les Beaux-Arts en 2008. Donc, voici quelques toiles présentes à mon diplôme de fin d'année. Du coup, je prends le temps de vous faire une petite présentation et j'en parlerai après. Ça sera peut-être un peu rapide, mais je reviendrai dessus. Parce que bon, j'ai peut-être le CV le plus petit de tout. Donc, je prends un peu le temps de juste vous montrer. Je vais virer ça. Donc ça a été fait en 2008. C'est que tout est à l'huile et c'est pour l'instant que des grands formats. Mais je reviendrai après sur le choix du format. Donc là, j'arrive après, j'ai fait donc une expo à la galerie Semioz personnelle en 2010, intitulée « Rock around the bunker ». Donc voici quelques toiles. Donc, j'ai fait peut-être je passe un peu vite, mais je reviendrai après sur quelques-unes. Et après, du coup, j'ai fait une deuxième expo personnelle à la galerie Semioz en 2013, et c'est l'évolution un peu du travail, avec des formats plus petits, toujours à l'huile. Voilà, 70 par 60. Il y en a une petite série. Il n'y a pas de titre. Bon, ils sont plus cool en vrai, hein. Enfin, j'espère. Donc un grand format et un dernier format, une petite vue d'expo. Voilà, pour juste un petit aperçu avant que tout le monde parte. Donc je fais partie d'une famille où la peinture et le dessin ont toujours été très présents. J'ai découvert l'histoire de l'art au lycée, le Trecento, le Quattrocento, Duccio, Masaccio et Piero della Francesca. Donc j'ai juste fait un petit choix avec des peintures qui m'ont bien touché. Voilà, un château magnifique, rose, avec des perspectives au top. Et celle-ci de Piero della Francesca, il y en a des plus peut-être représentatives et plus belles, mais celle-ci elle m'a bien touché avec ses créneaux et quelques plans. Ah ouais, je reviendrai, désolé. Du coup, j'ai commencé à peindre à l'acrylique, faute d'apprentissage. C'était déjà à l'époque une technique qui ne me convenait pas du tout, trop transparente, aucun fondu correct, séchage trop rapide. Je m'arrachais les cheveux. L'entrée aux Beaux-Arts m'a permis d'avoir un lieu à disposition pour expérimenter l'huile. Je n'y ai reçu aucun apprentissage technique, aucun cours n'y était donné, seulement les cours de nu. Les professeurs de peinture peignaient soit à l'acrylique, soit à la cire vinylique. J'ai appris en regardant faire les cinquièmes années. Je descendais dans leurs espaces le soir venu pour regarder derrière leur châssis. Manque de peau, ils écoutaient des chants tibétains et avaient une relation plutôt mystique à la peinture et aux gestes. Il devait se mettre en état de transe pour peindre. Je me sentais complètement dépassée. J'avais envie d'écouter du rock. Donc, j'ai commencé par me fier à la figure, au modèle, à pouvoir retranscrire de manière très réaliste une expression, un visage, une posture. J'utilisais déjà Photoshop et l'ordinateur pour mes compositions. Mais le poids du modèle fut très vite très contraignant. Mes tableaux faisaient référence à l'histoire de l'art. J'aimais déjà John Curran. Je travaillais en jus selon les règles de la peinture. Donc, je suis partie en voyage d'études au Canada où j'ai découvert l'emploi systématique et flippant du scotch, le masking tape. Les étudiants étaient complètement décomplexés du poids de l'histoire de l'art, utilisaient toutes sortes d'images reproductibles dans un joyeux capharnaüm. J'ai commencé à mieux découvrir la peinture allemande, Polk, Richter, Hollen, Neo Rauch. J'ai commencé à en mettre en place des compositions de plus en plus abouties sur Photoshop, réalisant que le doute n'avait pas sa place dans la composition. Je n'ai testé aucune autre technique, ni la gravure, ni la sérigraphie. L'huile me prenait tout mon temps. J'étais complètement envahie et absorbée par cette pratique. J'utilise différentes sources iconographiques, Internet, toutes sortes d'images à ma disposition, catalogue Leroy Merlin, mobilier urbain, matériaux de construction. Ces images ne me suffisent pas à créer un ensemble scénographique intéressant. J'exerce en parallèle un travail photographique, documentaire, d'archiviste. Je puise dans mon environnement des perspectives, des vues, des motifs. Ces éléments rejoignent la toile et sont traités comme des motifs égaux, évoluant dans le champ pictural. Je ne construis pas une allégorie ou une énigme qu'il s'agirait d'élucider en décodant les éléments, ni une juxtaposition en un pur collage qui ferait de la peinture la scène d'un jeu de référence. J'aime exploiter la pluralité divergente de ces fragments pour en composer un ensemble scénographique qui tendrait à être juste assez consistant pour que l'image tienne, comme un tout, mais aussi assez hétérogène, pour qu'une étrangeté en résulte. Cette première étape de montage s'esquisse sur ordinateur. Elle me permet de vider l'image de tout indice, sans repère, afin de pouvoir l'identifier de manière totale. Ce travail consiste à remonter jusqu'au point d'indétermination où une autre lecture des signes est possible. Chaque élément peut ainsi être choisi dans un premier temps pour leurs caractéristiques formelles. L'approche est à la fois morphologique et dynamique. De plusieurs manières, ces images renvoient à des souvenirs, à des expériences précises ou fantasmées. Ce langage amorcé n'est que la solution à un problème de peinture. Ces motifs, chaînes, briques ou bâches militaires, sont pour moi assez forts dans leur dynamique formelle. Pour être appréhendables par tout un chacun de manière entière, ils me permettent seulement d'importer des contrastes de couleurs, des ombres, des perspectives pour voir si cela tient toujours. Tout le dessin s'effectue donc sur Photoshop. J'utilise une multitude de calques, de strates, c'est-à-dire des formes, des tracés, des ombres, des dégradés, des transparences. Souvent, mes images sont constituées d'une soixantaine de calques. C'est un espace d'atelier complètement bordélique. J'y importe toutes sortes d'images, de motifs. J'en détourne les éléments qui m'intéressent. Je les déforme, les anamorphose pour créer des perspectives. Ces montages se composent de toutes sortes d'étapes. Il s'ensuit une batterie de tests avant de s'affiner et de s'approcher au plus près de l'idée finale. C'est la première étape la plus importante de la mise en place du tableau. Donc, du coup, j'ai quelques photomontages. Donc ça, c'est un photomontage. Donc, je ne les montre jamais. Et la peinture qui en résulte. Et comme j'ai dit, il y en a... Au début, c'est vraiment... je suis un peu folle de vous le montrer, mais ça donne ça. C'est vraiment tout pourri. Alors après, c'est un peu plus cool. Enfin... Et la peinture qui en résulte. Donc je peux travailler ces montages soit pendant quelques jours, soit pendant quelques semaines. Tout y est permis. Photoshop me permet d'imaginer constamment de nouveaux plans, de nouvelles transformations. Il me permet à la fois d'ouvrir le champ des possibles et d'un autre côté de me le fausser complètement. C'est pour cela que je n'utilise pas de logiciel 3D. Tout serait trop juste. L'opération est la fusion de tous ces calques, les aplatir en une seule image. L'esquisse est prête et définitive. Le degré de liberté face à cette esquisse est quasiment nul. L'impression A3... J'ai dans couleur me sert de nuancier de base. Donc j'en ai quelques autres. Donc ça, c'est le photomontage d'une peinture qu'on a vue précédemment. Là aussi, un montage hyper basique. Et un autre. Donc ça, c'est un peu un démontage. J'ai tout dessiné vraiment dessus. J'ai juste incorporé le grillage et les petites feuilles et la peinture qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'était Donc tous ces montages sont des étapes que je ne montre jamais, qui m'aident seulement à construire ma peinture. Ce sont des dessins préparatoires. L'ordinateur est quant à lui un réel espace d'atelier, mouvant, pouvant être utilisé partout. Le dessin s'effectue à même l'ordinateur. J'ai comme tout le monde un petit carnet avec quelques esquisses de composition, mais je n'ai aucune réelle pratique papier du dessin. Le dessin me demanderait un investissement total comme la peinture. Je devrais en connaître tous les outils, toutes les sortes et marques de papier à ma disposition, dessiner tous les jours, maîtriser et comprendre différentes techniques pour pouvoir seulement amorcer une pratique. C'est ce que j'essaie de faire pour l'instant avec la peinture à l'huile. Je n'ai pas encore cet attrait pour le dessin. Mon père est graphiste et maquettiste et m'a appris très tôt en fait à me servir de ces logiciels comme Photoshop, Illustrator et InDesign. Les possibilités sont très vastes et évoluent constamment. J'utilise Photoshop pour le montage global, Illustrator pour créer des formes plus complexes, plus précises et InDesign pour découper l'image comme une mise à carreau. Donc Illustrator est un logiciel de création graphique vectorielle. Il peut être utilisé indépendamment ou au complément de Photoshop. Il offre des outils de dessin vectoriel plus puissants. L'un des outils principaux, nommé la plume, permet de tracer des courbes à l'aspect parfait grâce au placement de points d'ancrage et de tangentes qui vont en modifier la courbure. Donc, le squelette de l'image, c'est-à-dire les traits, les arêtes, l'ossature de la composition, est imprimé en format A3, noir et blanc à échelle 1 au format du tableau. J'utilise à nouveau des calques papier pour reporter le dessin sur la toile. C'est une étape très importante qui me permet d'appréhender le dessin 3 fois au minimum pour me l'approprier complètement. Donc je passe d'un écran 15 pouces à une toile de 2 mètres, j'ai souvent besoin de redessiner la structure globale. Le zoom, même très puissant de Photoshop, ne me permet pas une grande précision dans la jonction des lignes et des angles, quand je dessine à même l'ordinateur. Je décalque une première fois mon image imprimée au crayon sec, je la redécouvre et me l'approprie. Je redessine et repositionne les éléments. Le papier calque est utilisé pour dessiner et reproduire un dessin par transparence, car il est ainsi visible à travers le papier, on obtient un tracé à l'identique. Je repasse à l'aide d'un crayon blanc sur l'envers le dessin pour pouvoir le poser à l'identique en version améliorée, puis une troisième fois à l'endroit sur la toile, de manière à être complètement imprégné par celui-ci et plus par le photomontage. Cette manière de procéder répond à un problème matériel que me pose la peinture. Il s'agit de rendre équivalent la tension de l'esquisse numérique et le rendu peint. Tout se joue au millimètre. Il était évident, après plusieurs tentatives, que ni la projection ni la mise à carreau n'étaient les bonnes solutions. Il me fallait donc reproduire à l'identique l'esquisse numérique au format du tableau, la décalquer, puis la reporter sur la toile. Donc, je vais vous montrer juste une petite toile en cours de réalisation. Donc, c'est un petit format, donc j'utilise que 6 calques, mais je peux en utiliser 50 pour un 2 mètres, sur 2 par exemple. Donc c'est, je vais défiler assez vite. Donc, c'est assez simple, c'est la technique du calque. Donc l'esquisse apparaît en blanc légèrement. Voilà, c'est juste une petite ambiance d'atelier. L'esquisse est posée en blanc sur une couche de couleur acrylique. Le crayon blanc est appliqué sur la toile comme de la poudre posée à l'aide des calques pour complètement disparaître lorsque la peinture arrive, ne laissant aucune trace par transparence. Ce crayon blanc est une sorte de pastel sec, assez large. Il n'est pas précis et ne peut s'appliquer à même la toile. Il ne marque pas et arrache la couche de peinture posée au préalable. Il s'adapte par contre complètement au papier. Il permet de recouvrir de manière assez sommaire le dessin sur l'envers. Ce sont de larges tracés de poudre blanche. Lorsque je retourne le calque pour dessiner l'esquisse à l'endroit sur la toile à l'aide d'un crayon sec très affûté, le tracé blanc qui en résulte est fin et précis et a cette propriété de disparaître très facilement, juste avec de l'eau ou en frottant. L'esquisse est fragile, presque invisible, mais s'adapte totalement à la technique de l'huile qui suit. Le crayon et le fusain sont gras pour l'application de la couche fine à l'huile. Je peux ainsi utiliser une cinquantaine de calques A3, ce qui permet une grande précision dans la composition. À ce moment-là, tout l'effort se concentre à créer un tableau en une seule couche de peinture. Je ne peins pas par jus, en plaçant les ombres et les lumières, en faisant monter la peinture petit à petit, en travaillant avec toutes sortes de médiums, de glacis, de brillance et de matité. Si j'ai besoin d'une ombre, je la peins. J'ai besoin que l'œil et la vision ne soient gênés par aucune brillance, aucun affect de la peinture. Il faut que le rendu soit froid, tendu et synthétique. C'est pour cela que je travaille par système de calque et de pochoir. Chaque zone du tableau est délimitée par des scotchs, par des zones pleines ou vides de scotch. Pour certains détails plus complexes, je fais faire imprimer par découpe laser des pochoirs sur sticker vinyle. Je passe plus de temps à créer des structures en scotch que peindre. Tout s'emboîte dans un long travail de mise en place de la peinture. Chaque détail et partie du tableau sont traités avec la même attention, sur le même plan. Je regarde mes tableaux de très près, détail par détail. Donc ça, c'est des structures en scotch un peu plus... où je passe un peu plus de temps, mais désolé pour la... C'est des photos iPhone qui datent un petit peu, et mon atelier était tout petit, donc il n'y avait pas de recul. Donc ça a donné ça, donc le pochoir et le passage du dégradé du fond avec la structure vide, pareil, c'est des... Enfin, tout simple. Et donc là, c'est la peinture qui reprend. Donc c'est juste un petit défilement. Voilà, elle monte comme ça, en fait. Mes potes, les scotch. Et la peinture finale. Donc, en une couche, rien n'est altéré. Je garde la puissance des couleurs, de la lumière, cette matière de la peinture à l'huile que j'adore, légèrement satinée. Tout reste en surface. Je ne broie pas mes couleurs, il faudrait être chimiste pour prévoir toutes les réactions de la peinture à l'huile, son instabilité ou faire un gros travail en amont de préparation. Je n'ai eu aucun apprentissage de la peinture à l'huile, je commence seulement à comprendre quelques-uns de ses fonctionnements. J'ai lu quelques ouvrages sur la technique de la peinture à l'huile sans grande conviction. Les couleurs des fabricants sont toutes très différentes, certaines trop instables, d'autres dosées avec trop et différentes huiles. Pour avoir une technique et un rendu maîtrisé, la tâche n'est pas aisée. L'huile est un médium changeant et évolue constamment par son oxydation. Je me suis donc intéressée à toutes les marques, j'ai essayé tous les médiums, tous les vernis à ma disposition, de faire un grand tour de tous les outils que pouvait m'offrir l'huile pour enfin mettre en place la technique qui me convenait le mieux. Donc j'aime exploiter les possibilités et les contraintes de l'huile, je n'en maîtrise pas le quart. J'utilise le même fabricant pour la plupart de mes couleurs. Il utilise le dosage qui me convient. Les accidents et les hasards n'ont pas leur place. L'instinct se place au niveau de l'importance du choix des couleurs, de leur justesse, de la justesse de chaque forme dans la composition. Donc pour moi, la peinture n'est pas nécessairement un travail de patience, mais il est vraiment long, ça peut faire 2 à 3 mois pour un tableau. C'est un processus extrêmement long, mais nécessaire. La patience est inhérente à ce travail, ce n'est pas un choix, mais une forme d'obligation. J'accepte cette patience, même si cela commence par un plaisir certain et finit souvent en corvée interminable. Certains détails sont effectués à la main, sans scotch, comme les filets ou la végétation. Je peux passer un mois à peindre tous les jours le même motif. Et voilà, un assistant, ça serait bien cool. Mais... Donc du coup, j'ai des petits détails. Donc il y a 2000 copeaux de bois. Et là, il y en a un peu moins. Et j'ai passé 3 mois à faire des copeaux de bois. Donc, même si l'esquisse semble quasiment définitive... À aucun moment, je ne sais si le tableau va fonctionner. Je ne connais pas son évolution, que ce soit au niveau du format, des couleurs, du rendu des textures. Évidemment, le choix du format est crucial. Je ne commence jamais avec un format fixe. Je ne prends une décision définitive qu'une fois l'esquisse terminée. Je me suis instinctivement senti à l'aise avec le grand format, 2 mètres sur 1,80 m à peu près. Au début, le mode de construction de mes images ne laissait pas la part belle au format plus réduit. Il m'aura fallu quelques années avant de bien l'appréhender pour enfin passer à l'acte. Il fallait naturellement que je me rapproche à la manière d'un objectif photo de mes motifs. Cela ne veut pas dire que les petits formats sont des détails des grands. J'ai dû radicaliser mes montages, être plus intransigeante et pertinente plutôt dans mes choix, resserrer mes idées. Ce fut un très bon exercice pour l'évolution de ma peinture. Donc à chaque nouveau tableau, quelque chose me fait peur et m'excite. C'est à ce moment-là que les choix sont drastiques et la peinture séduisante. Trouver des solutions simples à des problèmes de peinture sans drame ni fioriture. Éviter de tapoter son pinceau pour faire un buisson et un chiffon pour faire des nuages. J'évite de justesse tous les effets de matière, de gestes et de textures qui appartiennent à la peinture. En ce qui concerne le travail à l'atelier, je ne travaille rien en amont, tout est fait à même la toile. Je mets seulement en place une hiérarchie des formes pour pouvoir construire et faire évoluer les éléments les uns par rapport aux autres. Le travail des couleurs est très intuitif, je prépare seulement des couleurs dans des pots pour les grandes surfaces. Malgré les apparences, tout doit être réalisé dans une certaine immédiateté, en un seul passage de pinceau. Pour cette toile, par exemple, j'ai dû réaliser le fond en dégradé avec la préparation en couleur en une seule journée, sans aucune pause. Je n'ai même pas pu aller aux toilettes ou quoi que ce soit. Pour réaliser un bon dégradé, je peux utiliser 10 à 20 couleurs différentes. Si je suis interrompue pendant que je peins, je dois recommencer. Ma peinture se compose d'aplats et de dégradés. J'ai besoin d'un maximum de temps pour travailler ces dégradés. La peinture à l'huile a cette propriété d'être très longue à sécher, de pouvoir être travaillée pendant un long moment, tout en respectant les règles d'or du gras sur maigre. Cette règle repose sur l'obligation que chaque couche de couleur soit plus grasse que la précédente, afin que l'accroche soit solide et durable. Les premières couches sont faites en pâte maigre, c'est-à-dire en essence, riche en essence de térébenthine diluant de la peinture, et progressivement, la peinture en huile ou en médium, base de résine, augmentera afin de rendre la couche suivante plus grasse. Mais lorsque le geste est interrompu, un premier séchage intervient quasi instantanément, presque imperceptible. Si la couche est fine, des variations de brillance peuvent apparaître avec la reprise du geste. J'essaye de les éviter au maximum. Je fais très attention au geste quand j'applique la peinture, bien sûr au choix du pinceau qui est déterminant, à comment se reflète la lumière sur le sens de ce geste. J'utilise des pinceaux synthétiques, plus conseillés pour l'acrylique, à la fois souples pour éviter trop de traces de pinceau et assez durs pour pouvoir manipuler l'huile. Si le choix du pinceau est douteux, le résultat sera en demi-teinte. Le geste n'est pas aléatoire, il dépend à la fois du reflet de la lumière sur celui-ci, du sens de la perspective et de la mise en place du dégradé. Il s'effectue le plus possible de droite à gauche et de gauche à droite, ce qui n'est pas forcément le plus aisé dans toute la composition d'un tableau. Malgré les apparences, le geste n'est pas absent de ma pratique, il est visible. Je travaille à la lumière blanche et artificielle toute la journée. Je n'ai jamais aussi bien vu que dans un garage dans lequel j'ai travaillé pendant un an et demi après les Beaux-Arts, sans fenêtre, uniquement à la lumière blanche, sans aucune variation. Donc je refute ainsi totalement le repentir. Bon, pour le garage, c'était un peu rude quand même. J'étais aussi abonné à Damar. Voilà. Donc, cette technique assez rigide de composer un tableau me permet de cloisonner l'espace de la toile, de coincer le regard dans un angle, de mettre en place des états de tension qui ne se transmettent parfois que par des éléments de composition. La procédure est un sujet déterminant qui s'affronte au sujet principal que constitue la narration. La peinture n'est pas un outil pour la représentation d'un motif, elle est en elle-même une représentation qui s'affronte au motif, le met en tension. L'image tire son sens de la mise en évidence par les moyens de la peinture de ses secrets. Mes peintures s'inspirent du monde réel, mais il ne s'agit que d'un point de départ. C'est une porte d'entrée ou une forme familière, identifiable par le spectateur comme par moi, et qui donne ainsi à la peinture une origine tangible, ce qui permet alors aux intangibles, à l'atmosphère du tableau, de prendre forme. Je n'entreprends jamais de créer des espaces réels, uniquement des espaces peints, supprimant toute unité de temps comme de lieu. Tous les éléments sont travaillés pour rendre compte d'une atmosphère, d'un arrière-goût bizarre de déjà-vu, d'un climat contemporain à la fois psychologique et physique. Je ne veux pas de paysages idéaux, inspirés de la nature, mais tracés avec des effets de profondeur irritantes, des perspectives et des proportions aberrantes. Il est important à mes yeux que certaines structures soient crédibles, sans savoir si elles paraissent réalistes ou non. Je cherche seulement à saisir ce qui marche et ce qui ne marche pas, que ce soit au niveau des perspectives, des ombres et des lumières. Souvent, l'ombre portée correcte d'un objet ne fonctionne pas du tout dans la composition. Je décide donc de la positionner d'une toute autre manière, de même pour les perspectives. Quelquefois, je ne me rends même pas compte que tout est faux, donc je me dis que la peinture tient. Ce jeu de lignes rompues et de motifs muraux crée un espace incertain à la surface du tableau et dans la peinture elle-même. Ces ressorts formels et iconographiques me permettent de suspendre par endroits l'illusion figurative et narrative que ces fragments amorcent, contrariant notre désir d'une profondeur de l'image et du sens. Le spectateur doit être retenu à la surface du tableau, en surface du sens. L'ouverture des tableaux présentés permet différents modes d'approche. Des éléments figuratifs parlent de choses et d'événements et amorcent un dialogue direct avec tout visiteur qui aime les histoires. Pourtant, l'élément narratif n'est jamais assez fort pour être en mesure de nous faire oublier que nous sommes en train de regarder un tableau. Donc ce n'est pas une peinture désenchantée ni dévastée, mais détachée, artificielle, où le sentiment de distanciation projette l'ombre du faux. La notion de décor met en place un autre terrain d'activité. L'architecture y devient perverse et la séduction immédiate. Les stratégies perverses du spectacle se mettent en place, les attributs de la guerre et du divertissement se confondent, le regard se retrouve piégé dans une treille ou dans un angle, peint avec des matériaux de surface, de remplissage, carrelage ou planche de bois, même toutes les végétations, en fait, c'est des papiers peints, empêchant toute tentative de s'y projeter. Le tableau ne promet aucun horizon. Cette mise à distance ne me met pas pour autant en position d'absence. La peinture prend corps dans un lent travail de mise en place, de diffusion de la pensée. J'ai l'espoir de faire un travail qui reste obstinément visuel. On me pose souvent la question de l'influence de l'esthétique des jeux vidéo, mais en fait c'est une esthétique qui ne m'intéresse pas du tout, que je ne regarde pas, même si j'ai le souvenir d'aimer la cassure de certains plans, bon, un petit peu peut-être, mais... Même si j'aime le souvenir d'aimer la cassure nette de certains plans des jeux vidéo des années 80-90, on avait l'impression que les programmateurs n'avaient pas fini de concevoir leurs plans. Les possibilités n'étaient pas infinies comme aujourd'hui, on ne pouvait pas se balader partout avec le personnage. Ils travaillaient toute la partie où le jeu devait se dérouler et laissaient en ébauche 3D les à-côté qui servaient de décor. Le décor était en réalité tout plat, ils empêchaient aussi par le biais d'un mur invisible la progression du personnage, laissant apparaître l'horizon et le décor lointain du jeu. On pouvait alors voir apparaître la construction 3D encore sommaire de certains plans. Donc, je réalise deux peintures à la fois, au début pour la mise en place des fonds et le temps de séchage. Je me concentre par la suite sur une seule peinture. Donc, j'ai un atelier de 21 mètres carrés au 6B à Saint-Denis. Je tiens sur 21 mètres carrés. Donc, l'atelier est assez épuré, peu de catalogue d'art, pas d'images au mur, excepté celles en cours de réalisation, pas d'ambiance particulière, un endroit sommaire et minimal, propice à l'exercice de l'application de la matière peinture sur la toile et de la musique beaucoup. Je ne peux pas peindre en silence. J'ai un besoin constant de nouvelles musiques pour peindre. Je peux ainsi plus aisément penser à autre chose lorsque la tâche est trop fastidieuse. Je peins à la lumière artificielle, la lumière changeante est mon ennemi. J'ouvre et je ferme les rideaux à longueur de journée. La peinture réalisée sera présentée dans un premier temps dans un espace clos, sans lumière naturelle. Je fais très attention à la poussière et aux moustiques. Elles sont reloues, les moustiques. Du coup, j'ai fait une petite bâche anti-moustique en tuile rose en résidence à Chamalot. Parce qu'ils n'arrêtaient pas de se coller le temps que ça sèche. Donc c'était un peu ma petite bâche rose. Voilà, j'évolue dans un chaos extrêmement organisé. Au fil de la réalisation, il devient de plus en plus difficile de se mouvoir, mais chaque chose est à sa place. Les palettes, assiettes en plastique s'amoncellent au milieu de l'atelier. Les pots de couleurs se multiplient. Rien n'est jeté tant que la peinture n'est pas complètement terminée. Une fois la toile achevée, tout sera rangé. Je ne suis pas à l'atelier pour trouver l'inspiration, j'y suis pour faire. Ce n'est pas le lieu des influences. Une fois le travail fini, emballé et envoyé, il est assez aisé de faire une liste exhaustive de ce qui s'y trouve. Pinceaux, tubes, essence, toile vierge et châssis nu, pots en plastique, mobilier sommaire, boîte à outils, vêtements d'atelier, musique. Idéalement, l'atelier parfait serait bien aéré avec un réseau électrique stable, de bonne facture et une bonne connexion à Internet. J'aime travailler seul, être complètement libre pour peindre, pouvoir être à moitié nu, écouter la musique très fort, être libre de tous les gestes, de tous les tests. Quand j'étais au Beaux-Arts, au début de ma formation dans les ateliers de peinture, je cachais toutes les épreuves numériques par honte de ne pas dessiner à même la toile comme la mythologie du peintre. Je ne veux surtout pas être une artiste maudite, enfermée toute seule dans son atelier. J'ai besoin de montrer mon travail, d'en parler avec mon conjoint, mes amis, mon galeriste. C'est eux qui m'influencent plus que mon dernier catalogue d'art acheté. Évidemment, rattrapé par la réalité, mon travail alimentaire divise au moins par deux ma production. Donc, petit atelier, mais vu qu'il est petit, ben, les photos, ça ne rend pas grand-chose. Du coup, je tends à faire évoluer ma peinture vers des compositions plus rapides, n'importe quoi, pardon, plus radicales, plus justes, dans le choix de ses formes, de ses couleurs, plus pertinentes. Des compositions peut-être moins complexes qui tendraient vers une abstraction que je ne maîtrise pas. Donc c'est mon désir actuel, mais il sera peut-être tout autre à la fin de la peinture en cours. Chaque peinture terminée appelle la suivante. Donc c'est juste les derniers travaux pour finir que j'ai terminé il y a très peu de temps. J'ai réussi à finir tous mes copeaux. Et voilà.